Décryptualité, semaine 14. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
Une jolie liste d'articles, une belle brochette.
Alors, on va commencer par The Conversation, Bitcoin, l'intenable promesse d'une monnaie pour tous, de Jean-Michel Servais.
Alors, le Bitcoin, donc cette monnaie électronique, est basée et faite dans l'esprit du logiciel libre, mais la monnaie qui en résulte n'est pas libre. Ce sont des éléments qui sont bien propriétaires, c'est-à-dire qui sont votre possession. Vous pouvez pas les partager. Donc oui, ça part d'une bonne intention tout ça, mais finalement, ça reste un truc de rapière. Hein.
Plus moult autres problèmes.
Informaticnews.fr, Microsoft lance sa propre distribution Java par Loïc Duval.
Alors, c'est un sujet que moi j'adore, hein, parce qu'il y a des années et des années, donc Sun, qui était le propriétaire, le créateur officiel de Java, qui a été racheté depuis par Oracle, s'était plaint que Microsoft faisait un Java pas compatible. Et donc ça avait été au tribunal, ça avait créé plein de problèmes, c'était vraiment un gros bordel. Et Microsoft finalement avait jeté l'éponge et en quelque part, pour se venger et pour faire à sa sauce, avait fait ce qui s'appelle .NET. Tout un environnement de programmation parallèle, un monde alternatif, qui marche encore très bien. Et là, retour au bercail, Java est devenu libre depuis quelques années. Eh bien, Microsoft en profite parce que c'est libre pour faire sa propre version de Java. Ils ont le droit maintenant, il n'y a plus vraiment de problème. Donc, bah oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Je trouve ça vraiment très drôle, très ironie de l'histoire.
Donc ça fait encore un langage de plus, quoi.
Non, ils font le Java officiel. C'est juste qu'ils ne sont plus bloqués par Sun Oracle.
Mais du coup, il est compatible avec le reste du Java ou c'est le Java presque comme le reste, mais
en
mode Microsoft.
T'as raison, hein, t'as raison de faire remarquer. Normalement, ça devrait être assez compatible parce qu'ils partent sur le même code source de base. Donc ça, c'est une forme de garantie, même si, effectivement, avec Microsoft, voilà. Faut toujours se méfier.
Quand t'as dit assez compatible, t'as tout dit, quoi.
Bah, c'est Microsoft aussi, hein. L'usine nouvelle, des chercheurs publient en open source les séquences ARN des vaccins de Pfizer et Moderna, par Simon Philippe.
On en a déjà parlé, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et très rigolo. Ils ont récupéré les fonds d'éprouvette, et à partir des fonds d'éprouvette de vaccins déjà existants, ils ont réussi à reconstruire les formules, je trouve ça génial. Et surtout, ils les ont publiés en libre, comme la science le demande.
Siècle digital, cloud, 10 acteurs partagent 77% du marché. Par Julia Guinamard.
Alors, ça parle d'informatique en nuage. C'est pas vraiment du logiciel libre à la base, mais si, ça parle dans l'article de logiciel libre. C'est plutôt intéressant. Parce que oui, utiliser les serveurs d'autrui, c'est intéressant, ça peut être pas mal. Mais le logiciel libre, c'est quand même une bonne solution aussi.
Lemonde.fr, après 11 ans de bataille judiciaire, la Cour suprême américaine se prononce en faveur de Google contre Oracle, par la rédaction.
Donc là aussi, c'était le sujet de la semaine dernière. Oui, Oracle, pas contre Microsoft, mais contre Google, a été en justice. Ils ont perdu et ça fait plutôt plaisir.
Et donc, aujourd'hui, on parle de quoi ?
Aujourd'hui, on va bloquer.
On va bloquer ?
Oui, il y a dans l'actualité un certain nombre de sujets qui reviennent sur la volonté de bloquer des bouts d'Internet. Donc,
mais c'est pas possible, ça ?
Ben, certains le font très bien, c'est plus tout à fait Internet. Mais il y a un peu deux sujets en parallèle dans l'actualité actuellement. Il y a un sujet sur la pornographie, dont on discute depuis un petit moment maintenant, quelques semaines, avec cette volonté en France de bloquer par défaut les sites pornographiques et de contraindre les sites porno à mettre en place un système qui garantisse que les gens qui se connectent sont bien majeurs.
Donc c'est un vieux sujet, et d'autres pays ont réussi plus ou moins à le mettre en place. La Grande-Bretagne est connue pour ça, notamment, et ça date déjà d'il y a quelques années. Et la France, bah là, c'est Emmanuel Macron hein, qui met ça en avant. Il y a pas mal de monde qui est derrière lui, même si ça reste une forme de censure compliquée à mettre en place.
En gros, ils veulent modifier la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, en intégrant plus d'intermédiaires pour pouvoir bloquer Internet.
Alors, c'est pas que dans le cadre du porno, mais oui, il y a plein de systèmes qui sont là-dessus, et effectivement, ça fait partie des directions qui risquent d'être prises.
Et rappelons-le, cette loi existe depuis 2004, donc en 7 ans, il y a plein de choses qui sont devenues obsolètes. Surtout en informatique, ça va très vite.
Alors, ils veulent en profiter, ça c'est donc ce deuxième plan, pour bloquer des sites web d'une manière plus générale, quand il y a des problématiques en lien avec la justice. Peut-être des sites web, je sais pas moi, pour radicaliser les gens. Ça a beaucoup fait jaser sur le terrorisme, il y avait pas mal de choses qui étaient discutées. Et c'est vrai que la justice, à un moment donné, elle tape du poing, elle dit « ce site web, il faut l'arrêter ». Donc, on a des solutions plutôt simples au départ, c'est de retrouver les auteurs du site, retrouver les hébergeurs du site et leur dire stop, éventuellement analyser comment ils ont fait et peut-être les mettre au tribunal. Mais il y a aussi des problématiques de sites qui sont difficiles à remonter, c'est-à-dire on ne remonte pas la chaîne de ces créateurs Ils sont peut-être à l'étranger, ils sont peut-être cachés dans des systèmes qu'on appelle le Darknet. Et dans ces cas-là, on essaye de les bloquer par d'autres moyens. Alors là, tout ça, ça va être mis dans un package légal. Mais les moyens techniques, c'est souvent de casser le DNS. Est-ce que ça vous dit, le DNS ?
Le DNS, c'est ce service qui fait la conversion entre une adresse Internet en toutes lettres, de type april.org, vers un code en chiffres, donc qu'on appelle l'adresse IP, et qui est compréhensible par les infrastructures d'Internet, de réseau, etc., et qui vont envoyer les requêtes vers le bon serveur. Donc le DNS, c'est ce qui fait la transition entre ce que nous, on va utiliser qui est pratique, qui est un mot, et ce que les ordinateurs savent comprendre, qui sont des chiffres.
En gros, c'est un annuaire automatique.
Oui, largement. Un gros annuaire, des annuaires, il n'y en a pas qu'un. Il y en a qui sont fournis par nos fournisseurs d'accès, mais on peut en trouver d'autres. Google en fournit par défaut. On peut en héberger chacun sur son ordinateur. Et puis, il y a des fournisseurs de noms de domaine qui font des formes de DNS. Et tout ça, c'est une sorte de grande toile interconnectée, assez complexe à maîtriser. Et généralement, effectivement, les États, ils interviennent là-dessus et ils disent, vous, fournisseurs de ce répertoire d'adresses, vous me bloquez tel site et tel site et tel site. Et maintenant, quand les gens vont vous demander où est le serveur, vous n'allez pas leur dire où il est vraiment, vous allez plutôt les orienter vers chez moi. Et comme ça, vous allez empêcher à ces gens qui veulent s'auto-radicaliser sur Internet d'aller sur les suites d'auto-radicalisation. À la place, ils vont terminer sur un site de l'État.
Et donc, bien sûr, il y a des moyens de contourner ça. Changer de DNS, on peut déjà faire des trucs dans son propre navigateur, c'est ça ?
On peut mettre l'adresse IP, par exemple, si on la connaît, et puis on peut aller sur d'autres DNS qui ne sont pas bloqués par la justice.
Genre des DNS qui ne sont pas en France ?
Par exemple, des DNS pas en France, c'est assez simple. Alors, ceci dit, la requête dite requête DNS, elle est bloquable, parce que c'est en clair sur Internet. Donc justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres DNS qui étaient un peu embêtants. Ça vous dit quelque chose ? Dans l'article de Numérama, qui parle de
c'est
tout ça.
C'est le DNS chiffré, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc il y a un article de Julien Lausson sur Numérama. Le gouvernement a un plan pour que la justice bloque mieux les sites web. Et effectivement, c'est un des points de blocage, c'est les DNS chiffrés. Techniquement, c'est assez ancien, on sait faire ça depuis longtemps. Mais ça commence à se mettre de mieux en mieux en place parce que notamment les navigateurs essayent de pousser pour que quand on fait une demande à un annuaire, la demande ne soit pas en clair sur Internet. Et oui, c'était le cas aujourd'hui. Tous ceux qui pouvaient être sur le réseau pouvaient entendre les demandes que vous faisiez, pouvaient savoir sur quoi, en gros, vous alliez. Eh bien non, maintenant, les navigateurs essayent de chiffrer cette demande. C'est beaucoup plus solide, plus fiable, et puis c'est beaucoup plus privé, mais ça retire une capacité de censure aux États et à la justice.
Ah, c'est pas de chance, du coup. On a déjà la contre-mesure à ce blocage.
Et oui, c'est ça, exactement. Donc là, la loi qui a l'air d'être mise en avant essaye de prendre en compte ces problématiques-là. Donc, il propose de permettre de demander à tous les ayants cause d'un blocage de pouvoir être partie prenante du point de vue de la justice. Et si la justice considère que vous, en tant qu'intermédiaire technique, en tant qu'élément technique d'une requête, vous pouvez être utilisé pour bloquer, il y a des chances, grâce à la loi, qu'ils puissent vous le demander et qu'ils puissent vous l'imposer, tant que vous êtes en France, bien sûr.
Du coup, c'est hyper limité, puisqu'il suffit que n'importe lequel de ces services soit à l'étranger, et ça devient quand même très compliqué pour l'État français et la justice française d'obtenir gain de cause, surtout si le service en question n'est pas dans un pays européen ou dans un...
Alors, c'est un grand classique, ce que tu dis là, on le sait depuis longtemps, à partir du moment où on sort de la juridiction française, on peut se permettre des choses, et l'État ne peut pas grand-chose. Alors, moi, j'ai une solution à proposer. C'est une solution qui n'est pas appréciée par tout le monde. C'est le grand firewall. Le grand firewall à la chinoise ou à la russe. C'est ce qu'ils ont mis en place, il semblerait, depuis assez peu de temps, mais quand même. En Chine, en gros, chaque fois que vous faites des requêtes qui sortent du pays, ces requêtes sont filtrées et peuvent être bloquées assez facilement. Il y a des listes, qu'on dit souvent blanches ou des listes noires. Et on vérifie que vraiment, vous avez le droit d'aller sur tel ou tel site. Et si c'est des sites chiffrés, je crois que les requis vont un peu plus loin. Mais on ne s'inquiète pas, en Chine, de toute façon, votre téléphone, votre ordinateur, probablement contient déjà un petit logiciel espion qui va pouvoir déchiffrer tout ce qui se passe. Je ne suis pas inquiet pour eux. Mais en attendant, ils essayent de vérifier aux frontières et de bloquer aux frontières. Mais ce n'est pas les seuls pays à faire ça.
C'est pas un peu tôt pour troller, là, Manu ?
Je ne sais pas. Je vois juste que la Chine a réussi à mettre en place une solution super efficace, quoi.
Alors, il y a un autre truc, YouTube et les vidéos YouTube sont massivement sponsorisées par des vendeurs de VPN. Donc le VPN,
VPN, tu sais ce que ça veut dire VPN ?
Virtual Private Network.
Pas mal, même bon, à la française, mais oui, ouais. Et donc ça veut dire quoi, techniquement?
En gros, si j'ai bien compris, c'est une sorte de petit tunnel qui va depuis l'ordinateur de la personne qui se connecte au VPN jusqu'à un serveur quelque part sur Internet qui lui permet de sortir ailleurs. Donc du coup, le fournisseur d'accès ne sait pas ce qui se passe puisque tous les échanges sont chiffrés. Et c'est juste qu'il y a des échanges chiffrés qui vont entre son client et un serveur quelque part sur Internet. Et ensuite, quand les requêtes sortent de l'autre côté, le client du VPN, l'utilisateur, il fait ce qu'il veut, puisqu'en fait, il est passé sous ton mur et il fait ce qu'il veut.
Les YouTubers sont payés par les fournisseurs de VPN. On peut dire, voilà, je veux regarder des vidéos, je sais pas moi, de sport aux États-Unis. Or, il y a des blocages géographiques qui peuvent être mis en place. Eh bien, en passant par un VPN aux États-Unis, on contourne et on arrive à avoir des vidéos de football américain qui n'auraient pas été diffusées ailleurs.
Donc, deuxième manière de contourner la loi.
Manière efficace et rapide, parce qu'a priori, de ce que je sais, c'est quelques euros seulement pour acheter un abonnement VPN, et c'est plutôt efficace.
Et en fait, ça s'est lancé aussi, ça, ils s'en vendent pas trop, parce que je suppose qu'ils veulent pas s'attirer des ennuis, mais l'abonnement VPN, ça permet aussi de télécharger ce qu'on veut sur Internet sans se faire repérer, puisque on a une adresse IP qui est quelque part à l'étranger. Et après, voilà, l'Adopi peut dire, regardez, les gens ne téléchargent plus en France. Oui, mais peut-être que tous ceux qui sont clients de VPN, ils téléchargent plus de la France, ils téléchargent depuis la sortie de leur VPN ailleurs dans le monde.
Alors, ceci dit, moi je ferai une petite remarque, c'est qu'un VPN, pourquoi pas, c'est plutôt efficace, mais tu fais confiance à un tiers, à une entreprise, et cette entreprise, bien elle-même, elle peut être vulnérable, ou même elle peut être en accord avec des États pour transmettre tes informations, pour faire des redirections, on va savoir, puisque tu contrôles pas forcément ce que eux font. Et eux-mêmes ont pu être attaqués et ont pu être vulnérables. Je crois qu'il y a eu des cas de VPN qui, soi-disant, ne gardaient pas de log d'informations sur ce qui s'était passé par leur tunnel et qui, finalement, quand on creusait un petit peu, on pouvait redécouvrir des choses. C'est peut-être une solution efficace pour contourner la justice et la juridiction française, mais ce n'est pas une solution efficace pour tout. Je mettrai en avant une autre solution technique qui s'appelle Tor et qui semblerait puisse fonctionner aussi bien que les VPN, avec en plus des garanties de ne pas passer par un tiers. C'est beaucoup plus ouvert encore.
Alors Tor a quand même la réputation d'être extrêmement lent.
Ah oui. Oui, Tor en gros passe par 3 nœuds intermédiaires à chaque fois. Un nœud entrant, des nœuds au milieu et un nœud de sortie. Et effectivement, il n'y a pas tant de monde que ça qui propose des nœuds Tor. Ouais. Mais ça n'empêche.
Une faiblesse, c'est qu'il n'y a pas des masses de nœuds Tor. Et donc du coup, le réseau, il a beau être sécurisé. Si tu as un nombre de nœuds Tor extrêmement limité et que tout le monde se connecte au même,
ah oui.
Tu restes vulnérable. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, finalement, c'est que d'un côté, on a cette loi LCEN qui veut essayer de faire disparaître d'Internet des trucs potentiellement graves. On pense effectivement aux trucs qui font l'apologie du terrorisme, éventuellement des gens qui font du harcèlement et des trucs. Donc des choses où on peut se dire que c'est peut-être légitime de le faire. Et finalement, on voit aussi comment les politiques menées par Adopi initialement sur le téléchargement, aujourd'hui sur les trucs de cul, etc., qui sont massivement utilisés, finalement sont en train d'apprendre au plus grand nombre à se prémunir contre ces dispositifs-là. Donc du coup, il y a pour moi cette logique de filtrage d'Internet qui aurait potentiellement pu marcher pour le plus grand nombre si c'était uniquement concentré sur les trucs vraiment pourris. Et les gens qui auraient fait l'effort de le contourner auraient pu être plus facilement identifiés. Sauf que, comme on veut aussi toucher la plus grande partie des comportements comme le téléchargement, etc., etc., au final, on est en train de saboter cette partie-là et noyer les vrais méchants dans la masse.
Je trouve, oui, que tu as plutôt raison. En plus de ça, c'est Cédric O qui avait l'air de mettre en avant qu'il fallait faire attention à faire des lois qui soit réellement efficace, parce qu'une loi pas efficace, effectivement, ça va t'apprendre à ne pas faire attention à la loi d'une manière générale, donc c'est pire que tout.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un service qui permettrait, par exemple un service public, disons, qui permettrait aux gens de justifier du fait qu'ils soient majeurs sur un site externe, ou même qu'ils aient payé des droits, si on est dans l'idée d'un téléchargement, sans pour autant que la personne qui donne le service sache qui est le destinataire? Parce qu'effectivement, dans le cas de la pornographie, on se dit qu'on n'a peut-être pas envie que l'État collecte toute la liste de nos perversions. On préfère que ce soit des acteurs privés qui aient ça.
Non, mais il n'y a pas de problème. C'est France Connect qui centralise tout ça. Il n'y a pas de souci.
Tu trolles.
Non, mais effectivement, techniquement, ça peut se faire. Mozilla, Firefox avaient commencé à proposer des mécanismes qui allaient dans ce sens-là. C'est-à-dire une authentification, mais le garant de l'identité n'est pas au courant de là où on va. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, comme garant d'identité, on peut avoir Facebook et Google. C'est souvent le cas. Quand vous authentifiez sur un site où il y a leur logo, vous authentifiez en passant par eux, donc c'est eux qui sont garants de qui vous êtes, mais eux savent aussi sur quoi vous avez été à peu près. Bon, faut voir.
Donc nous, on va bloquer la production de podcast jusqu'à la semaine prochaine, hein, ce qui voilà, va tout changer. Donc à la semaine prochaine.
Salut.
À la semaine prochaine.